Bonjour à tous et bienvenue sur Calade. Au sommaire de notre journal local et régional.
Belleville en Beaujolais, fouilles archéologiques, des résultats spectaculaires. Le point des découvertes avec Bertrand Bonaventure, directeur de projet à Archéodunum, agence de Lyon. Rhône, un point de rentrée des collèges avec son vice-président en charge des collèges et de la transformation numérique, Daniel Valéroux. Et en conclusion, le magazine 30 millions d'amis, la chasse en France, entre mensonges et dérives, joint par téléphone, l'auteur du dossier, Jean-Philippe Noël. Calade, le journal. Le regard des Français sur la relance de la réforme des retraites. Extrait d'un sondage de l'Institut IFOP en partenariat avec le journal du dimanche. Véritable serpent de mer des derniers quinquennats, la réforme des retraites s'apparente surtout à un terrain miné, nous dit-on, sur lequel Emmanuel Macron envisage de s'engager. Sur ce thème extrêmement clivant des retraites, l'opinion des Français est fracturée en deux parts importantes, mais pas tout à fait égales. Car une majorité des Français, 55%, estiment que le chef de l'État a tort de vouloir relancer la réforme des retraites dès cet automne, tandis qu'un bloc de 45%, représentant presque la moitié de la population, juge qu'il a raison. Parmi les soutiens d'une réforme à initier dès cet automne, se retrouve une majorité de retraités. 58% estiment qu'Emmanuel Macron a raison de la relancer, et de personnes âgées de plus de 65 ans, 61%. Là où elle est perçue avec davantage de scepticisme par les actifs, 39%, et les moins de 35 ans, 40%, qui seront les premiers impactés. Certes, dans un contexte différent et sans accélération brutale du calendrier, surtout au-delà de la relance du dossier, ce sera le contenu de la réforme qui sera scruté. Les Français avaient par exemple largement estimé, 77% d'entre eux, en avril 2022, un sondage d'IFOP pour le journal du JDD, qu'il fallait qu'Emmanuel Macron retire de son programme le recul de l'âge légal de départ à la retraite. À savoir que près de 8 habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes sur 10 situe l'âge idéal de départ à la retraite à 62 ans au plus tard. Belleville en Beaujolais, fouilles archéologiques, des résultats spectaculaires. Le projet de déviation sud-est de la RD109 donne lieu à la découverte archéologique d'un site gallo-romain bien structuré en contrebas du rond-point face au quartier artisanal exploré en 2020 sur la ZAC Libertech d'une occupation celle-ci gauloise. Le point des découvertes avec Bertrand Bonaventure, directeur de projet à Archéodunum, agence de Lyon. On l'écoute.
Toute personne ou groupe ou société qui crée un aménagement est susceptible de faire appel à nous, un aménagement qui va impacter le sous-sol. La loi française en fait protège les vestiges archéologiques, donc dès que quelqu'un ou une institution quelconque souhaite créer quelque chose, une route, une maison, un immeuble, une ZAC, etc., qui risque d'impacter le sous-sol, ils doivent faire réaliser des fouilles archéologiques. Et nous, on est opérateurs agréés pour réaliser ces fouilles. Alors, il y a une procédure qui est assez simple, qui est systématique. Un aménageur, ici, le département dépose un permis pour l'aménagement de son aménagement. Ce permis arrive sur le bureau du service régional de l'archéologie qui dépend du ministère de la Culture, qui prescrit un diagnostic. Ça, c'est l'Institut national qui le réalise. Ce sont une série de tranchées qui vont permettre de veiller ou pas à la présence d'un site archéologique à cet endroit. S'il n'y a pas de site, très bien, l'aménageur peut commencer ses travaux. S'il y a un site, il y a une prescription de fouille archéologique, auquel cas, nous, on ne peut intervenir dans ce cadre-là. Donc on arrive en sachant déjà un petit peu ce qu'on risque de trouver. Donc on peut évaluer le projet, le monter, savoir quels moyens on doit y mettre, quelles problématiques on va travailler avec, à partir du cahier des charges du service régional, et puis la fouille peut commencer.
Découverte complémentaire d'une série de bâtiments d'époque romaine face au quartier artisanal exploré en 2020 sur la ZAC Libertech de l'autre côté de la RD306.
Exactement, c'est plus qu'un complément, c'est le même site en fait, qui est simplement qu'on observe sur deux fenêtres différentes, séparées par la route sur laquelle on ne peut pas fouiller, mais c'est le même site, c'est probablement la même agglomération, le même relais routier qui s'est installé ici au 1er siècle de notre ère.
Un rappel de fait historique.
C'est ça, dès la fin du 1er siècle avant notre ère, dès le début de l'Empire romain après la conquête de la Gaule, tout un réseau routier a été mis en place sur l'ensemble de la Gaule qui partait de Lyon, qui servait de ville principale à partir de laquelle partait l'étoile des différentes routes. Et tout le long de ces routes, il y avait régulièrement des relais, grosso grosso modo tous les 30-50 km pour les grosses agglomérations, les gros relais, et puis plus régulièrement des plus petits relais qui servaient aux voyageurs à nourrir les bêtes, à dormir, manger, réparer le matériel avant de repartir. Et on est probablement face à un de ces relais qui était le long de la grande voie qui menait vers la mer du Nord et vers le Rhin.
Donc effectivement, améliorer l'espace routier en quelque sorte, et le cheminement, mais aussi j'imagine derrière la marchandisation certainement qui devait passer par ces voies, et aussi peut-être les sécuriser, non ?
Absolument, c'était des voies qui servaient évidemment au commerce, donc qui étaient les veines, les artères du développement économique de l'Empire romain. Et puis également les artères du développement militaire et territorial de l'Empire romain. C'est aussi une question de sécurité. C'était des voies qui étaient utilisées pour le transport des troupes qui allaient vers les lignes de front qui étaient aux frontières du Rhin, notamment pour les conquêtes du 1er et 2e siècle de notre ère.
Donc quelques années, les fouilles de Ludna.
Ludna, ça a été identifié à la commune actuelle de Saint-Georges, de Reims. Ludna, c'est le nom antique. On le connaît parce que c'est un nom qui apparaît sur des itinéraires antiques. On a deux grandes sources, en fait, pour la cartographie de l'Empire romain. L'itinéraire d'Antonin, qui est une liste de localités avec leur nom et leur distance qui les sépare. Et puis une vraie carte, ce qu'on appelle la carte de Pétinger, qui montre ces endroits et également désigne les distances entre les endroits. Ludna apparaît sur ces itinéraires, donc on la connaît, c'était une agglomération importante. Par contre, les plus petites, celles-là n'apparaissent pas sur les itinéraires, elles ne sont pas forcément signalées, et on est probablement dans ce cas-là. Donc on n'a pas le nom antique, donc on va l'appeler Belleville-en-Beaujolais, contournement de Belleville-en-Beaujolais, ça n'aura pas de nom antique, mais ça aura un nom d'opération.
Le site livre de nombreux vestiges.
Donc, comme je vous le disais, on est probablement au bord de cette voie, qu'on n'a pas, puisqu'elle est aujourd'hui sous la route, manifestement. Et donc, le long de cette voie se développent des bâtiments, des parcelles, en fait, linéaires, chacune occupée par un bâtiment. Donc, on a trois, voire quatre de ces bâtiments, avec notamment un qui se distingue par la présence d'un espace thermal. Donc, un espace thermal, c'est celui où il y a des bains chauds, des bains froids, dans lesquels les voyageurs, probablement, pourraient venir se laver, se détendre, et, au sein de ce processus, en fait, d'entre les différents bains de différentes températures. De l'autre côté de la route, on a avait plus particulièrement des traces d'artisanat. Donc là, probablement des ateliers qui servaient pour réparer l'outillage, les chariots qui servaient au transport. Ici, on aurait plus sur une partie d'habitat, en fait d'accueil des voyageurs. Alors nous, tout ce qu'on appelle le mobilier, c'est-à-dire les objets, les poteries, les ossements, etc., tout ça, nous, on le prélève, on l'enregistre. Et puis ensuite, ça va dans notre laboratoire, c'est lavé, inventorié et étudié par des spécialistes de chaque catégorie d'objets. Le céramologue étudie la céramique, donc les poteries. Lui, il va beaucoup être utile pour dater le site, dater les différentes couches et puis voir les réseaux économiques, les échanges, etc. L'archéozoologue, qui va étudier les ossements animaux, lui, va plutôt travailler sur la question de l'alimentation, de l'approvisionnement, de la qualité de la nourriture et donc du statut des habitants. Il y aura un numismate qui va étudier les monnaies, même si pour l'instant on n'en a pas trouvé, ça peut peut-être arriver. Différents spécialistes qui vont apporter leurs éléments de réponse à toutes les questions qu'on se pose sur le site.
C'était Bertrand Bonaventure, directeur de projet à Archéodonome, agence de Lyon, concernant des fouilles archéologiques récentes à Belleville-en-Beaujolais. Un point de rentrée des collèges du Rhône avec le vice-président en charge des collèges et de la transformation numérique, Daniel Valérouf.
Nous avons encore un effectif de collégiens dans le département du Rhône qui va encore augmenter cette année. On a essayé de faire en sorte qu'ils puissent tous être accueillis dans de bonnes conditions. Et puis pour cette rentrée, une visite de deux collèges publics et d'un collège privé. Le dernier, donc, collège public à Reims.
Une politique de proximité pour les élus du Rhône.
Cette année, c'est la première fois. Nous avons accueilli les 250 employés du département qui travaillent dans les collèges. Nous les avons reçus la semaine dernière au département avec une demi-journée ludique, d'information et autres. Et avec une visite même des locaux du département puisque c'est un magnifique bâtiment dans le centre-ville de Lyon. Et certains ne le connaissaient pas du tout. Ça nous a permis de nous rapprocher et autres. Et d'ailleurs, j'en étais ravi puisque là, aujourd'hui, à Anse, l'ensemble du personnel qui est à la restauration scolaire m'a accueilli avec un sourire haute parce qu'on a permis d'échanger. Et moi, ça m'a permis de connaître des gens que je ne connaissais pas parce que c'est difficile de connaître 250 employés.
Les politiques d'aménagement et développement à venir du département du Rhône sur l'ensemble du parc des collèges du département.
Oui, alors des besoins, il y en a. En fait, ce qui est important, je vais parler d'une façon générale. Mais je suis un homme qui coûte cher au département, puisque sur le programme pluriannuel d'investissement que nous avons jusqu'à la fin du mandat, on a fléché plus de 170 millions d'euros pour les collèges. Alors dans ces 170 millions d'euros, Il y a les créations des collèges de Genasse et de Lima, bien sûr. Il y a aussi les restructurations et rénovations des collèges de Saint-Symphorien-d'Ozon et également de Chazé-d'Azergues. Et puis également les travaux réguliers, environ 2 à 3 millions d'euros par an que l'on fait tous les ans dans les collèges pour différents motifs d'ailleurs. Il y a des travaux qui sont, comme on a fait ici et qu'on est en train de faire à Zapolini, à Anse, c'est des travaux de rénovation énergétique, protection, aussi bien pour le bruit que pour la chaleur et le froid. Et on l'a vu, vous voyez, à l'entrée de ce collège, on a toutes les baies vitrées qui vont être installées, double vitrage, on change toutes les huisseries et on met les rideaux qui vont bien, qui protègent du soleil et autres, avec la clim qui va avec. Voilà, et ça c'est des travaux. On a des collèges qui commencent à dater, donc ce sont des travaux qu'il faudra faire dans beaucoup et dans plusieurs collèges. Et puis cette année, on a aussi innové puisqu'on a fait un test dans 4 collèges et on a fait le verdissement des cours de collège. Et sur Villefranche, nous avons Jean Moulin. J'ai suivi les travaux en juillet. Ils ont fini l'enrobé de la cour lundi et mardi dernier. Il nous restera les plantations, il faut attendre octobre-novembre. Mais dans 4 collèges, on a amené de la verdure où il n'y avait que du béton et de l'enrobé, quoi. Donc c'est aussi ça, les travaux qu'on a à faire régulièrement et rester à l'écoute.
C'était un point de rentrée des collèges du département du Rhône avec son vice-président en charge des collèges et de la transformation numérique, Daniel Valéroux. Et pour conclure cette édition, la rédaction de 30 millions d'amis dans son numéro de septembre a mené l'enquête sur les dérives d'une pratique obsolète et mensongère de la chasse, nous dit son auteur Jean-Philippe Noël. Une activité de loisir qui fait polémique, Jean-Philippe Noël, pigiste au magazine, est joint par téléphone.
Comme le titre du dossier le montre clairement, c'est-à-dire qu'en fait il y a une communication des chasseurs, mais je dirais plus exactement de la Fédération Nationale des Chasseurs, qui est tout à fait mensongère. Puisque les chasseurs parlent, se présentent comme les premiers écologistes de France, se présentent comme les grands régulateurs de la faune. Et c'est une communication qui passe plus ou moins bien, peut-être pas parmi nos lecteurs, mais en tout cas parmi la population française. Et c'est vrai que ce sont certaines de ces vérités que nous avons eu envie à 30 millions d'amis de dire et de dévoiler en fait.
Alors quels sont les mensonges ?
Ils sont de plusieurs ordres. Le grand mensonge, c'est de se présenter comme les premiers écologistes de France. Et pour cela, les chasseurs et la fédération a des moyens. Et particulièrement, je ne sais pas si vous aviez vu ou si nos éditeurs l'ont vu, c'est très très beau clip hein, qui présente les chasseurs comme de grands protecteurs de la nature dans leur clip. Il n'y a pas une seule balle qui est tirée, mais il y a des oiseaux qui sont bagués, il y a des oiseaux qui sont relâchés, et on montre les chasseurs comme vraiment participant à la protection de la faune, et c'est comme cela, et c'est sur cette protection qu'ils se présentent, ce qui est évidemment complètement faux. Et la première de leurs grandes communications qui passe très bien auprès du public, c'est qu'ils sont les grands régulateurs de la faune, c'est-à-dire que toute la faune de France, toutes les espèces, auraient besoin d'être régulées, car elles seraient en trop grand nombre, en fait. Et ce qui est évidemment totalement faux, puisque sur l'ensemble des 90 espèces qui sont chassables en France, seules 3 ont actuellement des effectifs en hausse. Et évidemment, c'est le cas du sanglier qui est de plus en plus présent en France, mais sur l'ensemble du territoire européen, en fait.
Alors ça, c'est pour le côté mensonge, mais vous avez enquêté et il y a également, et vous dénoncez en tous les cas, des dérives.
On dénonce, c'est pas à moi, hein, c'est évidemment, je le fais en donnant la parole à ceux qui dénoncent tout ça, mais c'est vrai qu'effectivement, l'une des grandes dérives, c'est l'élevage. La Fédération, les chasseurs se présentent comme de grands protecteurs et disent qu'en fait, ils favorisent la biodiversité en relâchant chaque année entre 15 à 20 millions, hein, c'est pas petit, 15 à 20 millions de faisans, de canards et de perdrix principalement, qui seraient là pour repeupler en fait nos territoires. On peut se demander si véritablement il s'agissait de repeupler et de repermettre à ces animaux de reconquérir un territoire qui n'est pas d'ailleurs toujours leur territoire d'origine, pourquoi il serait nécessaire d'en relâcher autant. Et pourquoi il est nécessaire d'en relâcher autant ? Parce que les perdrix, les faisans ou les canards qu'ils relâchent, que eux-mêmes d'ailleurs nomment les cocottes, sont des animaux qui ont été élevés de manière totalement industrielle et qui du jour au lendemain sont relâchés dans la nature et qui sont donc totalement incapables de se défendre et souvent même pas de se reproduire.
C'était Jean-Philippe Noël, pigiste au magazine 30 millions d'amis, auteur du dossier dans son numéro de septembre « La chasse en France, entre mensonges et dérives ». Fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Calade, notre page Facebook. Très bonne continuation sur Calade.